Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, on part aujourd'hui à la rencontre d'une femme d'aujourd'hui qui souhaite avant tout nous rappeler que la peur de l'échec, eh bien, on doit tout simplement la balayer. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Bensaïd, bonjour.
Oui, bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Rita?
Ça va, je vais très bien. Merci en tout cas à toi de m'avoir invitée.
C'est un plaisir. Alors Rita, toi tu es une maman engagée puisque ça t'a poussé même à te spécialiser dans une discipline pointue, c'est-à-dire l'accompagnement et surtout la prise en charge du harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Ok, ben je t'explique un peu mon parcours.
Oui.
En fait, moi, je suis née à Tanger, j'ai grandi à Tanger, j'ai eu mon bac ES au lycée Regnault. Puis après, j'ai poursuivi en fait mes études dans une école de commerce. Puis après, j'ai travaillé en entreprise pendant quelques années, mais en fait, je ne me sentais pas vraiment à ma place.
Donc parcours classique jusque-là.
Et en fait, aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié, spécialisée d'abord en affirmation de soi. J'accompagne spécifiquement les femmes, mais aussi j'accompagne les adolescents, pas que pour l'harcèlement scolaire, mais aussi dans diverses problématiques comme la concentration, l'organisation. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme tu as très bien dit au début, je suis une maman engagée. Et ce qui s'est passé, c'est comment j'ai eu le déclic de carrément changer de métier, de domaine. C'est qu'en fait, une fois, ma fille, elle avait 2 ans et demi et je suis partie de la récupérer à la crèche et le gardien ne m'a pas laissé récupérer ma fille. Il m'a dit, je ne vous connais pas, vous n'êtes jamais venu récupérer votre fille. Et donc là, c'était pour moi le déclic. Comment ça se fait que, voilà, je suis là, je suis une maman qui n'est pas présente pour ma fille. Et j'ai décidé de carrément changer de...
Ça t'a fait mal au cœur de ne pas être reconnue comme la maman?
C'était un choc pour moi.
Ouais.
En fait, c'était une prise de conscience.
Ouais.
C'était vraiment une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis dans un travail qui ne me plaît pas. Je laisse ma fille de côté parce que je sors chaque jour à 18h, 19h, toujours de faire les mêmes choses. Donc vraiment, j'ai pris la décision de changer. Bon, ça a pris un peu de temps.
Alors, si on peut creuser dans ça, justement. Quand tu dis, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, j'ai travaillé en entreprise, mais tout ça, je ne me sentais pas à ma place. Quand on réalise après, en fait, ce n'est qu'après qu'on se dit, ah, finalement, je n'étais pas à ma place. Mais pendant ce temps-là, ça se manifestait comment? C'était quoi le ressenti? Comment on prend conscience qu'on n'est pas à sa place?
Moi, c'était plus par rapport au monde de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé 4 fois de poste en me disant à chaque fois que c'était le domaine d'activité qui ne me plaisait pas. Et donc, je me suis toujours sentie prisonnière, en fait, en entreprise. J'étais obligée d'être à telle heure le matin, de ressortir à telle heure. Et ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi. Je n'étais pas alignée à mes valeurs. Et en fait, quand je me suis reconnectée à moi-même, j'ai compris qu'en fait, ma valeur fondamentale était la liberté. Donc, pour moi, être libre de faire, de bouger, de dire ce que je voulais, était très, très important pour moi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'entreprise de manière générale.
Alors, justement, quand on prend conscience que sa valeur fondamentale, c'est la liberté, est-ce que tu t'es pas dit oui, mais quand même, tout le monde travaille, tout le monde est quand même attaché à des contraintes, etc. Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur?
Bien sûr, beaucoup de moments de doute. Beaucoup de fois, je me suis dit, Rita, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ce qui s'est passé, en fait, pour moi, c'est que j'ai toujours été conformiste, moi, dès mon plus jeune âge. J'ai perdu mon père très, très jeune. Et pour moi, je ne devais pas être un fardeau pour ma mère, parce que c'était une femme forte, elle était indépendante. Et donc, je me faisais toujours petite pour ne pas être un poids pour elle. Donc, je me conformais pour rentrer dans le moule. Donc, j'ai toujours été sage. Pendant mon adolescence, j'ai été conforme. Je me faisais petit. Et ce qui s'est passé, c'est que ce schéma inconscient s'est répété même à l'âge adulte. Et c'est après quelques années que je me suis rendu compte que finalement, mes choix ne m'appartenaient pas. En fait, c'était pas mes choix. Oui. Que je le fais parce que tous mes quatre grands frères ont fait une école de commerce, que j'ai reproduit la même chose et puis c'est tout.
Alors, quand on prend conscience de tout ça, est-ce qu'on se prend une claque au visage ou c'est une belle prise de conscience?
Quand tu dis une claque au visage, c'est par rapport à quoi?
Par rapport au fait que finalement, en quelque sorte, ta vie jusque-là, elle ne t'appartenait pas d'une manière ou d'une autre. Tes décisions ne t'appartenaient pas forcément.
Oui, exactement. C'était surtout pour rentrer dans le moule. Mais
c'était nécessaire en même temps ce moment-là, peut-être. Il fallait le faire. Parce que quand tu dis justement, j'ai perdu mon papa très jeune et ma maman était là, il fallait éviter de faire... C'était ta manière aussi de la soutenir, peut-être.
Exactement, oui, c'était exactement ça, c'était le fait de la soutenir, d'être là pour elle, c'était les seules choses que je pouvais faire pour elle à ce moment-là.
Exactement. Donc tu t'en es voulu à un moment de ne pas avoir vécu ta vie ou tu as compris que c'était aussi ta manière d'aider la famille à traverser ce deuil?
Non, en fait, moi, tout ce qui est regret, remords, je l'ai laissé derrière moi. Je me suis réconciliée avec moi-même.
Super, ouais.
Et là, je me suis dit que c'était une expérience pour moi-même, cette école de commerce, même ces expériences-là. Ben, j'ai appris beaucoup de choses et je ne vois que le positif. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir changé de métier, mais je n'ai aucun regret.
Super. Donc, prise de conscience, tout ça ne me convient pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? À ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, j'imagine.
Exactement, exactement. Alors, quand je te dis les expériences en entreprise quand même ont été positives, c'est parce qu'à un certain moment, je travaillais en tant que responsable marketing dans un établissement scolaire. Et parmi les actions que je faisais, c'était faire appel à des psychologues, à des coachs pour venir faire des conférences au sein de l'établissement pour que l'établissement se fasse connaître. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais déjà... j'ai fait connaissance avec ce métier. J'étais en contact avec ces psychologues et ces coachs-là. Et pendant ma recherche, qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'ai pris ma décision de ne plus travailler en entreprise, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? J'aime aider les autres. J'ai une qualité d'empathie. Je sais écouter les autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à chercher sur le net, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller vers ce domaine? Donc, j'ai commencé ma formation avant le Covid. Et j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce domaine de développement personnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, j'ai changé en tant que personne. Mes relations se sont améliorées. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment retrouvée dans ce métier-là.
Alors, quand tu dis « je me suis spécialisée en affirmation de soi
»,
est-ce que ça fait directement écho à ta propre histoire?
Oui. Carrément, carrément. Oui, l'affirmation de soi, c'est le fait de pouvoir exprimer ses besoins, ses idées, ses opinions, tout en préservant l'intégrité de l'autre.
Bien sûr.
Et moi, oui, en étant jeune, j'avais du mal à exprimer ce que je voulais. J'attendais toujours que les autres devinent mes besoins. J'attendais toujours que l'autre devine ce que moi j'ai envie de faire. Et j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à m'affirmer tout simplement. Et j'avais du mal aussi à dire non, parce qu'en fait, poser ses limites, ça fait partie de l'affirmation de soi. Donc j'avais du mal aussi à poser mes limites, à dire non, parce que j'avais peur de blesser l'autre personne qui était en face de moi, peur de heurter, peur de créer, de générer un conflit. Donc c'est quand on fait un travail sur nous-mêmes qu'on change. Enfin, on commence à s'affirmer, à dire oui, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je n'ai pas envie de faire. mais tout en respectant, c'est-à-dire je ne vais pas être agressive avec la
l'autre,
personne qui,
absolument.
Avec la, ouais, je vais dire ce que je veux, mais tout en préservant l'intégrité de l'autre personne qui est en face de moi.
Alors, moi, il y a une chose, on va la mettre dans un contexte, je pense qu'il fait écho à beaucoup de femmes. Quand tu as dit, j'avais du mal à dire ce que je voulais que les autres le comprennent à ma place, en fait, sans que je ne m'exprime. Et moi, automatiquement, je suis partie, quand toi tu disais ça, je suis partie dans le cas de figure du couple, en fait. Quand la femme dit non, mais je n'ai pas besoin de parler, il doit anticiper, il doit savoir, il doit me connaître suffisamment. Sans que je ne parle, il doit savoir ce que je veux, ce que j'attends, etc. Est-ce que c'est un mythe? Et est-ce que toi-même, avant ton travail sur toi, tu l'as vécu au sein de ton propre couple?
C'est une très très bonne question. Mais effectivement, c'est un schéma que je retrouve très 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 souvent lors de mes coachings. La femme est toujours là pour me dire oui, mais c'est à lui de deviner ce que moi je veux, s'il m'aime vraiment. Donc elle rentre dans toutes ces considérations. Mais ça, c'est pas possible. Et pour répondre à ta question, oui, avant de faire le travail sur moi-même, je l'ai vécu dans mon couple. J'attendais toujours que l'autre vienne vers moi, qu'il me dise ouais, est-ce que ça va? Non, avec du recul, non. J'ai pris conscience que si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais besoin de calme, de tranquillité, de voyage, besoin d'amour, besoin de respect, besoin, c'était à moi d'aller et d'exprimer ce besoin.
Mais comment tu fais concrètement? Concrètement, comment tu fais? Voilà. C'est-à-dire que, chérie, il faut qu'on parle, je dois t'exprimer quelque chose? Ou bien, comment ça se passe, justement?
Alors, non, ça ne doit pas être déjà robotisé.
Oui,
chérie.
Okay.
Déjà, au début, ça va être compliqué. Parce qu'on va apprendre à travailler, à communiquer, à travailler sur la communication non violente et tout ça, ça va être un peu mécanique. Après, au fil du temps, on va comprendre. En fait, on doit d'abord identifier ce qu'on a envie, nous. Parce que des fois, la femme, elle ne sait pas ce qu'elle veut.
Aslan,
elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle vient chez moi, elle me dit, ouais, mais tu sais, lui, il ne sait pas ce que moi j'ai envie. Je lui dis, ok, mais de quoi tu as besoin? Elle me dit, je ne sais pas.
Ouais.
D'accord, donc la première étape, c'est vraiment d'identifier ce qu'on veut dire à notre partenaire. Et quand on a envie de l'exprimer, déjà choisir un moment qui est opportun, c'est-à-dire je vais voir qu'il est disponible, qu'il n'est pas en train de voir son match de foot, qu'il n'est pas énervé avec son boulot, qu'il n'y a pas les enfants à côté. Et voilà, je vais lui dire, est-ce que tu as un moment, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de quelque chose. Et il est très réceptif. La personne en face de toi devient très réceptive. Contrairement à avant, où j'attaquais. Peut-être que j'attaquais la personne, j'attaquais mon partenaire. Je pouvais lui dire, ouais, tu me respectes pas, ouais, tu fais pas ça comme moi je veux, tu. Donc, c'est le fait de changer, en fait, la manière de communiquer qui va faire en sorte que ta relation avec ton partenaire va changer.
Mais dans cette histoire-là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on retombe très vite dans le piège de « tu ». Je donne un exemple. J'ai besoin que tu me parles comme ça, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Certains répondent « oui, mais je ne pensais pas que je n'étais pas comme ça, je pensais que je le faisais déjà ». Et donc, forcément, il faut argumenter. Et en argumentant, on dit, non, mais tu sais, la dernière fois, tu as fait, la dernière fois, c'était comme ça. Et donc, dès qu'on creuse un peu plus, on rentre dans le tu, dans les reproches.
Oui, c'est vrai.
Donc, oui. Et donc, l'autre se sent attaqué à ce moment-là. Même quand on arrive avec « j'ai besoin », ah bon, pourquoi ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas parce que on ne peut pas encore dire « j'ai besoin ». Que tu ne te comportes pas comme ça, parce que la dernière fois tu as fait, ou là parce que tu te comportes comme ça. Donc Anna, je trouve, en fait, je me trouve limitée dans ce modèle-là. J'arrive pas à aller jusqu'au bout des recommandations des coachs. Au bout d'un moment, ouais, je me retrouve à dire tu, et je me dis peut-être que j'ai perdu un maillon de l'histoire. De...
Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. J'utilise toujours le plus pour que tu ne culpabilises pas. J'utilise le tu, c'est normal. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains, on ne peut pas être parfait. Et en plus de ça, quand tu dis tu, mais sans l'attaquer, sans dire un mot qui va blesser l'autre, tu me manques de respect. Tu peux dire oui, tu as fait ça. Tu vas décrire des faits qui se sont passés. Mmh. Mais tu ne vas pas dire des choses qui relèvent de ton impression ou bien de ton jugement à toi. C'est ça toute la différence. Et si la femme, elle veut progresser, s'améliorer, et elle a envie de changer, elle a envie de changer sa manière de communiquer, elle doit le dire à son partenaire. Voilà, voilà ce que j'ai appris avec ma coach, par exemple. Et est-ce que tu serais prêt à faire la même chose? Voilà, on va se donner des challenges. Voilà, je sais que c'est difficile au début, mais on va essayer. Mais c'est pas pour autant qu'on va plus jamais utiliser le cul, c'est quasiment impossible.
Ah, ça me rassure. Ouais. Ça me rassure parce que... Ok. Alors, revenons à justement ton histoire à toi. Lorsque tu as commencé à changer, est-ce que, notamment par rapport à ça, par rapport à... Est-ce que ton conjoint ne trouvait pas que c'était plutôt mécanique?
C'est-à-dire au début?
Oui, absolument. Avant que ça ne devienne le vrai toi.
Mon conjoint, en fait, il trouvait que c'était pour lui, je pense qu'il pensait que ça allait être passager.
Ouais.
Que c'était juste un petit caprice, que voilà, que c'était juste en découverte de moi-même et puis surtout que ça allait passer. Mais en fait, quand il a vu vraiment que notre relation commençait à s'améliorer et tout ça, ben lui-même, il commence à faire attention à comment il parle, à comment il communique. Ouais, des fois, c'est vrai que c'est mécanique au début, mais c'est pas grave. Quand tu es en couple, ben tu te dis tout. Ouais, je sais, je suis en train d'expérimenter quelque chose que je viens d'apprendre. Et alors, c'est quoi le problème? Je vois pas où il est où le problème.
Mais ça, j'aime bien, ça me rassure. Quand, par exemple, là, j'ai une coach qui me dit, oui, ben, c'est vrai qu'au début, ça peut sembler mécanique. C'est pas, non, c'est magique. Non, au début, c'est pas magique.
Non, il n'y a pas de magie.
Oui, on est d'accord.
Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de recette magique. Et en plus de ça, cette solution ne marche pas avec tous les couples.
Ah oui.
Ah oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le conjoint, tu as beau lui parler comme ça, il est entêté, il n'a pas envie. Et la femme, elle fait beaucoup d'efforts de son côté. Et le conjoint, il n'a pas envie de changer. Donc, elle en a marre. Et voilà.
Et ça clash.
Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de recherche. C'est pour ça qu'en coaching, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec la personne de manière personnelle. C'est-à-dire que c'est la personne qui va trouver sa solution, sa propre solution à elle. Parce que la solution ne va pas convenir à tout le monde.
Mmh. Exact.
Chaque personne a sa propre solution.
Aujourd'hui, Rita, est-ce que tu es épanouie? Oui. Est-ce que tu es une femme épanouie?
Oui. Voilà. Je n'ai pas d'autre réponse que oui. Alhamdoulilah.
Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie?
Oui. Oui, j'ai trouvé ma voie.
Par rapport à justement aussi c'est l'accompagnement des enfants, le harcèlement, est-ce que tu sens que ça aide aussi tes enfants, tes propres enfants?
Oui, ça aide beaucoup mes propres enfants. Mes propres enfants, je leur dis d'exprimer clairement leurs émotions, leurs besoins. Je vais être dans une communication bienveillante. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire culpabiliser les mamans et les papas, parce que des fois, c'est too much. On entend tellement de choses sur la communication bienveillante. Mais il faut savoir que même nous, en tant que coach, il est possible qu'on s'énerve, qu'on crie, qu'on perde les moyens. Donc vraiment, je suis dans cette optique-là de déculpabiliser les parents.
On ne peut pas être constamment des robots. Rita Vincent, alors, qu'est-ce que tu souhaites que les femmes de notre communauté, nos femmes d'aujourd'hui, retiennent de ton parcours de vie?
Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que d'abord, j'aimerais parler de l'échec. Moi, l'échec, c'est quelque chose dont j'ai eu peur pendant très longtemps. J'avais peur de passer à l'action, de peur d'échouer. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais faire passer ce message que l'échec est un passage obligatoire, qu'il faudrait qu'on change notre perception. En fait, voir l'échec plutôt comme une opportunité à saisir plutôt qu'un obstacle. C'est comme, j'aime bien cet exemple de l'enfant qui apprend à marcher. En fait, quand il apprend à marcher, ben, il tombe à nouveau. À aucun moment, il s'est dit, voilà, finalement, la marche n'est pas faite pour moi, je vais abandonner. Mmh. Non. Il faut passer par l'échec pour réussir et persévérer. Ne jamais rien abandonner si vous avez des rêves.
Tu avais peur, pardon, d'échouer, justement, quand tu as pris ta décision de changer de cap de vie?
Oui, j'avais tellement peur parce que je me suis dit, bon, je vais sortir du schéma classique, je vais perdre ma stabilité, je vais perdre ma sécurité financière, que vont dire les autres de moi, que vont penser les autres de moi. J'avais peur de ne pas réussir, surtout dans un métier qui n'est pas vraiment réglementé au Maroc. Il y a des coachs qui font 4 jours de formation et qui se disent coach. Donc, c'était pour moi un vrai défi.
Défi relevé, Yek.
Alhamdoulilah.
Défi relevé, ouais. Super. Rita Ben Zayed, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine, pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.